fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fans of Africa, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend bleiben wir immer über den Politik in Elfenbeinküste und auch in Togo. Ich wünsche euch frohe Fest Ostern. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Bonsoir Abidjan, bonsoir Lomé, bonsoir Nigeria. Bienvenue à toutes et à tous dans le programme panafricain de Radio Canal K dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Avant toute chose, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne fête de Pâques. L'Afrique va mal, vraiment très mal. Pour commencer cette émission, chers amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, nos pensées se tournent vers nos frères de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria qui payent par le sang le prix de la démocratie. Ce soir, dans Fenêtre sur l'Afrique, nous parlerons encore une fois des derniers développements de la crise ivoirienne avec notre invité, M. Alain Toussaint, conseiller de Laurent Gbagbo, résident en France. Il sera dans quelques instants en ligne, en direct avec nous depuis Paris. Au Togo, les marches hebdomadaires du FRAC, Front républicain pour la tenance et le changement continuent. Nous retrouverons également notre correspondante Fabie Kouassi qui nous fera un résumé des actualités politiques de la semaine au Togo. Et le torchon brûle au sein du collectif pour la vérité des unes au Togo. Nous recevons à cet effet M. Agbiome Kodjo et François Frabega, tous deux membres influents du CVU, collectif pour la vérité des unes. Et sous l'œil vigilant de Gisela Rosato, Josué Maouli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Romain Koudoti me prête son soutien permanent. Et bien sûr, avec la parfaite collaboration de Fabie Kouassi depuis Lomé, vous suivez Fenêtre sur l'Afrique ce soir au micro de Sylvain Amos. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'être connectés sur le www.canalk.ch. Je vous propose tout de suite de suivre l'éditorial de Romain Koudoti qui est déjà en ligne depuis Beaune.
Je dédie cet éditorial à la mémoire des martyrs tombés en Côte d'Ivoire en cette période de Pâques et aussi à l'honneur de Gbagbo Laurent, prisonnier de guerre, fait par les Français. Et cet éditorial va également à Jésus le Sauveur. Blaise Compaoré, un pyromane incendié. La devise des mousquetaires était un pour tous, tous pour un. Celle des politiques est un pour tous et tout pour moi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Citation de Jean Amadou. Le Burkina Faso est à son tour le terrain de troubles sociaux. Étudiants en colère qui manifestent, militaires en colère qui cassent les boutiques et étalage des commerçants en colère qui détruisent à leur tour des locaux de la République. Compaoré au pouvoir depuis 1984, après avoir participé à l'assassinat de son ami et frère prédécesseur Thomas Sankara, après avoir servi de pont logistique pour de nombreux conflits en Afrique noire, Zaïre, Angola, Libéria, Sierra Leone, Togo, etc. et dernièrement en Côte d'Ivoire, en alimentant la rébellion de ces pays en armes et mercenaires contre or, diamants et autres marchandises, est aujourd'hui à recevoir les foudres du peuple. Fatigué de n'entendre que des promesses, fatigué d'avoir affaire à des élections truquées, fatigué de voir une classe dominante prospérer tout autant que les étrangers venus pour coopérer en d'autres lieux étant, on aurait dit, collaborer. Le peuple, mais aussi l'armée, est fatigué de tout et surtout de Blaise. Un Compaoré qui a lui-même inventé les braises qui menacent de mettre le pays à l'incendie. Juste retour de l'histoire pour cet homme qui a durant 10 années fait en sorte avec ses alliés Ouattara et la France scinder la Côte d'Ivoire en 2 camps avec les horreurs tout juste récemment vécues. Bonne chance au pyromane incendié. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir.
Ils sont tous des Kpakpato chantés par l'artiste ivoirien Serge Kassi, un artiste que à qui nous rendons ce soir un grand hommage. Il est mort il y a environ un mois dans cette crise militaro-politique et politico-ivoirienne. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, bien sûr. Tout de suite, nous allons écouter, et bien sûr, encore une fois, un billet et sur l'actualité politique de la crise ivoirienne. La chute de Laurent Gbagbo par la France interpelle tout Africain. La France, après que ses forces spéciales aient capturé le président Laurent Koudjou Gbagbo le lundi 11 avril 2011 dernier, déclarait se battre aux côtés des adversaires de Gbagbo pour rétablir la démocratie et débarrasser le peuple de Côte d'Ivoire d'un dictateur. Pendant que certains présidents africains, démocrates bien propres, comme Faure Gnassingbé, Blaise Compaoré, Paul Biya, Idriss Déby, Sassou Nguesso, Ali Bongo, François Bozizé, tous élus et réélus à l'issue de fraudes électorales, avec la bénédiction de la France, boivent du petit lait. Gbagbo, le dictateur, le Hitler d'Afrique, est capturé et livré avec sa famille aux bons et gentils criminels Soro et Alassane Ouattara. Des photos et des séquences vidéo ont été réalisées plus tard. Images sur lesquelles on ne voit et ne verra aucun soldat français. Ceci pour montrer et convaincre le monde entier que ce sont des rebelles de Ouattara qui ont capturé Laurent Gbagbo. Mais la vérité est connue et les Africains ne sont pas dupes. La seule question qui nous vient à l'idée chers amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, est de savoir pourquoi la France renie-t-elle cette bonne action. Le débat fait rage, cristallise les passions et divise les Africains. Les interventions militaires françaises en Libye et surtout à Abidjan choquent, voire révulsent nombre d'Africains. Les Ivoiriens, bref les Africains, ne doivent pas tomber dans le piège du colonisateur qui a une vieille méthode qui est de diviser pour bien régner. La France traîne comme un boulet cette image de Machiavel occidental manœuvrant constamment pour défendre ses intérêts au détriment de ceux du continent noir. Mais soyons clairs, le coup de main français à Alassane Ouattara, qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle doctrine onusienne visant à protéger les civils par tous les moyens, dont on ne sait pas très bien où elle commence ni où elle s'arrête, était la mauvaise des solutions. On a suffisamment reproché à Paris, à juste titre, d'avoir laissé un génocide se dérouler au Rwanda en 1994 ou de ne pas être intervenu pour mettre fin aux tueries pendant la guerre civile au Congo-Brazzaville en 1997 pour ne pas examiner d'un œil objectif son immixtion dans la guerre que se livrent Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas des faiseurs de loi, ni nous ne voulons donner de leçons à qui que ce soit. Loin d'être le défenseur de Laurent Gbagbo, nous pensons que la solution à la crise ivoirienne n'est pas l'arrestation de celui-ci, ni culpabiliser Alassane Ouattara, qui est soutenu par la communauté internationale, mais plutôt régler le problème à la base en respectant la souveraineté du peuple ivoirien. Le plus dur ne fait que commencer. Juridiquement, comme le veut la Constitution ivoirienne, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer une nouvelle transition politique devant aboutir sur de nouvelles élections. Alassane Ouattara et ses soutiens internationaux le savent. C'est pourquoi ils ont exigé dès le lundi 11 avril 2011 du président légal de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, la signature d'un acte de démission, autant dire d'une capitulation. L'histoire reconnaîtra la grandeur de cet homme qui, assiégé par des tanks français et des rebelles sans foi ni loi, bombardé par des missiles onusiens, disons-le sans détour, de l'opération Licorne de la France, a fait fi de sa vie en refusant d'apposer sa signature au bas d'un document inique. Certaines indiscrétions font même état de sommes en millions d'euros qui ont été proposées à Laurent Gbagbo à vie s'il démissionnait. On croit rêver. La loi de la jungle, c'est-à-dire celle du plus fort, veut s'appliquer dans toute sa rigueur aux Ivoiriens. Nous leur disons aujourd'hui, faites appel à votre foi fondamentale, montrons-leur qu'au XXIe siècle, les Africains sont conscients désormais d'être devenus, au bout de 5 siècles d'exploitation, la civilisation qui connaît la plus longue servitude de tous les temps. Le libéral fascisme menace l'Afrique en général et l'Afrique francophone plus que jamais. Son objectif est de faire payer sa crise financière internationale à ceux qui ont été considérés depuis toujours comme des esclaves. Il est urgent pour les Ivoiriens qu'ils utilisent les armes du droit et de la raison au déploiement de la force brutale. Comment Alassane Ouattara peut-il être président de la Côte d'Ivoire alors même qu'il n'a pas prêté serment devant le Conseil constitutionnel et que cette même institution ne l'a pas reconnu comme président de la République? C'était pourtant l'exigence minimale de l'Union africaine. Le silence de la plupart des chefs d'État du continent africain qui n'ont pas noyé M. Ouattara sous les félicitations est éloquent. Mais encore une fois, le drame ivoirien pose la problématique des élections en Afrique francophone. Et cette image de Laurent Koudjou Gbagbo, capturé, humilié comme hier, Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Beyanzin, Samori Touré, restera à jamais gravé dans les mémoires des dignes fils de l'Afrique qui doivent travailler d'arrache-pied pour la libération de l'Afrique, berceau de l'humanité. Africain, libère-toi. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique avec le soutien du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Notre premier invité est déjà en ligne depuis la France. Il s'agit de monsieur Alain Toussaint, et qui est déjà en ligne depuis la France. Nous allons tenter de le joindre tout de suite depuis la France. Monsieur Toussaint Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le conseil spécial du président Laurent Gbagbo et vous avez constitué à cet effet un collectif d'avocats pour sa défense. Confirmez-vous toujours que ce n'est pas Soro et ses rebelles qui ont capturé Laurent Gbagbo, mais la France? Laurent Gbagbo, depuis lundi 11 avril, est dans les mains des rebelles. Est-ce vraiment la fin du règne de Laurent Gbagbo, monsieur Toussaint Alain?
Ce sont les forces spéciales françaises qui ont effectivement enlevé le président Gbagbo et qui l'ont ensuite remis aux rebelles d'Alassane Ouattara après avoir pendant plusieurs jours et nuits bombardé le palais présidentiel et la résidence du chef de l'État ainsi que des sites militaires de la ville d'Abidjan. Je confirme bel et bien cette information qui montre effectivement que la France est en fait actrice dans cette crise ivoirienne, qu'elle a pris parti pour la rébellion d'Alassane Ouattara et que son seul projet, par sa présence en Côte d'Ivoire, visait uniquement à renverser le président Gbagbo. Aujourd'hui, le président Gbagbo est donc détenu, retenu contre sa volonté par les rebelles d'Alassane Ouattara, avec la complicité de l'ONU et de la France. Et notre combat aujourd'hui, avec la constitution d'un collectif d'avocats, vise à obtenir sa remise en liberté immédiate et sans condition.
Monsieur Alain Toussaint, restez toujours en ligne avec nous. Nous avons un collaborateur en ligne depuis l'Allemagne, Romain.
Bonsoir, monsieur Alain Toussaint.
Bonsoir.
Selon nos indiscrétions, le président se trouverait en résidence surveillée à Korogo, dans le Nord. Avez-vous ces contacts et ces avocats l'ont-ils déjà contacté pour constituer la défense?
Le président Laurent Gbagbo est effectivement détenu comme otage, comme prisonnier politique dans le nord du pays, précisément à Korogo, qui est considéré comme la capitale ou la deuxième capitale de la rébellion. Et depuis une dizaine de jours, nous n'avons plus de nouvelles parce que nous avons eu quelques photos il y a quelques heures de son arrivée à Korogo. Et quand je dis de nouvelles, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de visiteurs, mais le président de la République a donné un signe de vie par un contact téléphonique ce samedi après-midi. Et cela me réjouit, mais cela n'attend à rien notre volonté d'obtenir rapidement et sans délai sa libération immédiate et sans condition.
Oui, monsieur Alain Toussaint, j'espère que vous êtes en pleine manifestation depuis la France. Il se susurre dans le milieu politique ivoirien international que le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, assumera bientôt l'intérim de la présidence et que celui-ci a déjà rencontré Alassane Ouattara afin de lui céder plus tard le poste de la présidence. Également, Yaoundé, président de la Cour constitutionnelle, et celui-là même qui a validé la victoire de Gbagbo a également rencontré hier Alassane Ouattara. Pensez-vous que Yaoundé a fait allégeance à Ouattara étant sous pression?
Écoutez, moi je ne rentre pas dans ces spéculations. Je dirais simplement que tout arrangement politique qui ne mettrait pas comme condition sine qua non, c'est-à-dire comme préalable, la libération du président Laurent Gbagbo me paraîtra être une initiative purement suicidaire. Le président Gbagbo est le chef de l'État en exercice de la Côte d'Ivoire. Il a été renversé par un coup d'État. Il a été enlevé et il est actuellement séquestré, retenu contre sa volonté par des bandes armées de M. Ouattara avec la complicité de la France et des Nations Unies. Si ses collaborateurs, notamment le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel, rencontrent M. Ouattara, j'espère que c'est uniquement dans le but d'obtenir sa libération. M. Ouattara sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections, Il sait très bien qu'aujourd'hui, par la volonté militaire de la France, on veut l'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas entrer dans ces spéculations. J'attends simplement de voir. Nous travaillons de notre côté pour obtenir la remise en liberté immédiate du président Bakou.
Oui, Alain Toussaint, et Alassane Ouattara promet dans un mois un retour à la normale en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez réellement dans cette situation et de la crise ivoirienne qu'il y aura une paix en Côte d'Ivoire?
Ben, M. Ouattara devrait d'abord commencer par libérer le président Bakou. C'est la première condition à une paix vraie, réelle et durable en Côte d'Ivoire. Et ensuite, libérer le président, bien entendu, son épouse et tous ses collaborateurs qui sont emprisonnés de manière arbitraire. Et surtout, demander aux rebelles, aux bandes armées qu'il a armées, financées avec la complicité de la France, d'arrêter d'assassiner des paisibles citoyens qui ont le malheur d'être de la région du président ou d'être originaire du Grand Ouest ou même du Sud. Et souvent, surtout même, d'être des élus ou des militants politiques de la majorité présidentielle. Je crois que parler de réconciliation dans ces conditions me paraît extrêmement compliqué à réaliser. Il y a une condition impréalable, c'est la libération du président Bakou.
Monsieur Alain Toussaint, encore une avant-dernière question, et notre collaborateur est toujours en ligne, Romain.
Oui, Monsieur Toussaint, Madame Simone Gbagbo se trouverait, quant à elle, toujours en état d'arrestation avec Michel, le fils de Gbagbo, à l'hôtel du Golfe. Cependant, nous avons appris qu'elle aurait subi des voies de fait et même violées au cours de son arrestation. Les faits sont tellement graves que nous demandons confirmation de votre part.
Je vous indique simplement que Simone Gbagbo a été transférée il y a quelque temps à Odienné. Dans le nord du pays, donc désormais elle n'est plus à l'hôtel du Golfe. Un certain nombre de collaborateurs du président sont également entre les mains des rebelles, mais dans des lieux qui nous sont inconnus à l'heure actuelle. Maintenant, en ce qui concerne les violences qu'elle aurait subies, je confirme effectivement, selon les témoignages des personnes proches, donc des membres de la famille de Madame la Première Dame, je confirme qu'elle a subi un certain nombre de violences et je ne voudrais pas entrer dans le détail.
Monsieur Alain Toussaint, une dernière question. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, en Suisse, et puisque nous sommes en Suisse, hein, nous émettons depuis le canton d'Argovie, ici à Aro, et ils sont nombreux, les Ivoiriens, à nous écouter dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Est-ce que vous avez un message concret à l'endroit des Ivoiriens, ici en Suisse?
Au-delà des Ivoiriens, mon message s'adressera à la fois aux Ivoiriens, bien entendu, et aux Africains, et dire qu'il faut voir... dans cette crise, l'expression d'une volonté de paix, d'une volonté d'autonomie et de souveraineté. Nous avons connu plusieurs siècles d'esclavage, un siècle de colonisation. Allons-nous être les parents ou les fils d'esclaves et ensuite léguer à nos enfants des héritages difficiles à supporter? Nous voulons une Afrique libérée, donc une Côte d'Ivoire libre, car c'est de la Côte d'Ivoire, à travers cette crise, que partira la révolution, la vraie révolution africaine, une révolution des mentalités, du comportement. Aujourd'hui, nos peuples sont asservis. Nous avons un continent qui est immensément riche, mais qui est malheureusement considéré comme le plus pauvre du monde, et qui est quand même une contradiction totalement surprenante. Donc c'est un combat politique que nous menons avec nos moyens, c'est-à-dire nos mains, les mains nues. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Et c'est un exemple que nous voulons donner au continent. Comme l'ANC a obtenu la libération de Mandela par le combat politique, nous allons obtenir la libération et du président Bakou et de ses proches et de la Côte d'Ivoire, permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une vraie indépendance politique, économique, culturelle et sociale. Et ensuite, nous mènerons le combat au-delà de nos frontières pour que l'Afrique tout entière soit libre et libérée de toutes ces contingences coloniales qui empêchent le continent de se développer. Donc c'est un combat de tous les jours que nous menons et nous espérons qu'il aboutira le plus rapidement possible. Ce que je voudrais dire à l'attention des Ivoiriens en particulier et même des Africains, juste une chose, leur dire que les choses ne font que commencer. La partie est loin d'être terminée en Côte d'Ivoire et M. Ouattara devra dans tous les cas prendre ses responsabilités. Il a amené la guerre chez nous, il a amené la France à attaquer un État souverain. Cela est inscrit dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'Afrique et tôt ou tard, il en répondra.
Alain Toussaint, merci. Et je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président Gbagbo. Vous étiez en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis la France. Encore une fois, merci et bon courage à vous.
Merci.
Eh bien, vous êtes toujours dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Retour maintenant au Togo. Et avant de prendre nos invités sur la politique togolaise, nous allons d'abord tenter de joindre notre correspondante Fabi Kwasi depuis Lomé. J'espère qu'elle est déjà en ligne. On la reçoit tout de suite. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Mons, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fête de Pâques. Fabi, vous suivez pour nous depuis Lomé les manifestations du FRAC, au Front Républicain pour l'alternance et le changement. Que peut-on retenir donc des activités de ce front et de la semaine?
Ouais, pour ce samedi, déjà, on va dire une bonne affluence. Hein, elle a un peu baissé par rapport aux 50 000 et plus du samedi dernier, mais ils sont toujours des milliers à dire que Faure Gnassingbé n'a pas gagné la présidentielle du 4 mars. Les messages sont consacrés essentiellement à la célébration du prochain 27 avril et du fait que le père et le fils Gnassingbé Sechine a tronqué la réalité des faits. Claude Amégan vient rappeler toutes les péripéties de cette lutte et l'hommage que le peuple togolais doit rendre à Sylvanus Olympio et tous ceux qui ont lutté pour cette cause. Pour déjà le mardi 26, la veille de cette célébration, une veillée sera observée au mausolée de Pas Augustino de Souza, celui qui a financé de bout en bout la lutte pour la blonde. Le 27 avril, le FRAC convie les Togolais à une messe au temple méthodiste Salem, suivie d'une marche à la plage, baptisée dorénavant la plage du changement. Et donc, le FRAC continue qu'un an d'animer la vie politique à travers ses manifestations. Jeudi dernier, la course poursuite gendarme contre cortège de Jean-Pierre Fabre, tel dans un film western, a eu lieu dans les rues de Lomé. Hier vendredi, le FRAC et ses militants ont observé le chemin de Croix Pascal avant de se retrouver ce matin pour la traditionnelle marche. En avant donc la mobilisation, le mot d'ordre de Fabre, Tiesa, Gogué et Amiane.
Comment se prépare donc dans les milieux politiques le 51e anniversaire de l'indépendance du Togo, Fabi?
Oui, malheureusement, le 51e anniversaire du 27 avril, c'est dans quelques 4 jours et comme d'habitude, ce sera à chacun son 27 avril, le pouvoir RPT Guiltrice avec sa célébration et à l'ANC le FRAC la leur. Mais avant le 27 avril 2011, le débat est houleux autour des bustes de chefs d'État exposés à la place de l'indépendance. Parmi ces bustes, celle de Gnassingbé père qui, comme tous les Togolais le savent, n'a pas participé à la lutte pour la conquête de la Blondé. Que viennent chercher les bustes de président du Togo et surtout celle de Gnassingbé Yadema, ont rétorqué la plupart des presses écrites parues hier et certains historiens. La place de l'indépendance serait-elle devenue la place des anciens présidents du Togo ou bien cette initiative vise à tordre le cou à une énième fois, le cou une énième fois à l'histoire togolaise? Les Togolais ne seront pas étonnés en tout cas d'entendre des énormités du genre Yadema père de la Blondé, surtout que son parti et certains évêques l'ont décrété père de la nation contre toute logique. En même temps que Faure Gnassingbé prône la réconciliation, il pose des gestes qui divisent. En effet, pendant que Sylvanus Olympio luttait pour l'indépendance et Yadema était aux côtés des armées occidentales, combattait contre les peuples, notamment d'Algérie, qui luttaient également pour leur souveraineté internationale. De toute évidence, Yadema n'était ni de près ni de loin lié à cette lutte et érigeait une buste en son honneur à la place de l'indépendance aux côtés de celle du père de l'indépendance. Sylvanus Olympio est une aberration et une provocation. Et tout se manège avec la bénédiction de Guiltrice Olympio, malheureusement, fils de Sylvanus Olympio, qui a tourné Kazakh depuis mai 2010 pour se retrouver dans la sauce RPT. Le sujet fâche énormément l'opinion ici. Quand on sait que le pouvoir RPT a tenté de tromper déjà l'histoire du Togo en mettant sous éteignoir l'hymne, la terre de nos aïeux, la devise, le drapeau, les Togolais s'attendent au pire avec une nouvelle tentative qui constituerait à placer Yadema parmi les personnalités qui ont lutté pour l'indépendance de la France en passant par le Sénégal, le Mali, le Ghana. Les héros de la souveraineté internationale sont connus, célébrés et honorés. Et les tensions ne sont pas mélangées avec les serviettes comme on tente de le faire chez nous. Le monde à l'envers au Togo de Faure Gnassingbé.
Fabi Kwasi, merci. Le torchon brûle entre les membres du collectif pour la vérité et des urnes CVU. Et pour en savoir plus, nous allons prendre depuis Lomé, Agbomi Kodjo, et également depuis la France, M. François Fabregat. Mais bien avant de prendre M. François Fabregat, j'espère que M. Agbomi Kodjo est déjà en ligne depuis Lomé. Et nous allons tenter de le recevoir et de le prendre tout de suite. M. Agbomi Kodjo, bonsoir.
Oui, bonsoir, Amos.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes le président de OBU, organisation pour partie dans l'Union Un Togo solidaire. Vous êtes également ancien premier ministre sous feu et Adema. Vous avez lutté corps et âme aux côtés du FRAC au Front républicain pour la tenance et le changement et pour revendiquer la victoire de Jean-Pierre Fabre. Mais finalement, vous avez abandonné ce front pour combattre maintenant aux côtés du nouveau regroupement Front Sage. Quelles sont alors vos raisons, M. Agbomi Kodjo?
Non, je n'ai pas. Vous savez que OBU est, est un des trépieds donc de la fondation donc du FRAC à Paris. Et donc, OBU demeure une alliée loyale donc du FRAC. Mais à un moment donné, donc, du combat politique, au lendemain de la naissance de l'ANC, je fais comprendre aux responsables de cette nouvelle formation politique, qui y était donc à l'UFC, qu'il était incohérent pour nous d'être dans les rues de Lomé pour réclamer donc la victoire de l'UFC au profit de Jean-Pierre Fabre, alors que Jean-Pierre Fabre n'est plus membre donc de l'UFC et qu'on supplie le président national de l'UFC déclare que l'UFC a perdu les élections et s'est associé avec l'usurpateur pour partager le pouvoir. Nous serons incohérents vis-à-vis de la communauté internationale et donc je leur ai demandé de reconfigurer donc les thématiques que nous pouvons utiliser d'autres thématiques en matière de droits de l'homme, en matière donc aujourd'hui de difficultés de vivre donc pour les Togolais, pour mobiliser donc les Togolais pour aller vers la construction de l'état de droit et l'exigence absolue de la vérité des urnes. Je n'ai pas été compris parce que moi j'ai dit aussi longtemps que les thématiques donc du FRAC vont encore tourner donc sur la réclamation de la victoire donc de l'UFC au profit de Jean-Pierre Fabre qui n'est plus militant de choses. Je crois que nous ne serons pas suivis et encouragés par la communauté internationale. Je n'ai pas adhéré, du moins, au Front Sage. Le Front Sage est une association de la société civile qui a invité OBU, comme les autres partis politiques aussi, à participer à une marche. J'ai considéré que les thématiques de revendication donc, du Front Sage sont à peu près celle que nous défendons au niveau de OBU, donc il n'y avait pas de problème que nous puissions participer, du moins, à leur manifestation. Donc je n'ai pas quitté un front pour un autre, j'ai répondu à une invitation d'une organisation de la société civile, et vous devez le savoir très bien, que pour conquérir le pouvoir, nous avons besoin aussi d'un adjuvant important qu'est la société civile, quand on sait ce que nos syndicats traditionnels sont devenus aujourd'hui dans la lutte que nous menons pour un Togo libre, prospère et également de toute façon marqué par une solidarité partagée.
Oui, M. Agbomi Kodjo, vous êtes également membre influent du CVU, Collectif pour la vérité des urnes. Votre action soudaine n'a pas reçu l'assentiment de vos collègues du CVU Diaspora. Il semblerait même que le torchon brûle au sein de votre collectif. Est-ce que le CVU est-il désormais divisé, M. Agbomi Kodjo?
D'abord, je veux préciser que le CVU est né au lendemain donc, du hold-up électoral perpétré donc par le RPT au profit de Fort Gnassingbé. Je suis le coordinateur national donc, du CVU. Vous savez, l'expression plurielle au sein du CVU est aussi donc un signe donc, de démocratie. Mais je considère qu'il y a un certain nombre de dérives par rapport donc à nos textes, et je pense qu'au niveau du CVU, dans les semaines et mois à venir, nous trouverons du moins la solution idéale qui puisse nous permettre de continuer, en tout cas à animer ce mouvement citoyen, à participer encore peut-être beaucoup plus activement donc, à cette lutte pour donc, l'alternance et le changement au Togo. Donc, il n'y a pas de souci. Première considération, je dis, le fait qu'il y ait du moins des expressions plurielles ou des positions divergentes au sein du CVU, eh bien, à mon avis, traduit la vitalité donc, et la liberté d'expression au niveau de notre mouvement citoyen, mais il n'en demeure pas moins, il y a quelques problèmes par rapport au texte membre fondateur du CVU. Je trouve de tout en malséant qu'un membre fondateur du CVU ou un collaborateur du CVU puisse donc attaquer vraiment. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, par rapport à nos textes, par rapport à l'éthique que nous défendons, donc au niveau de l'action républicaine, nous allons également observer les mêmes exigences au niveau du CVU. Donc, dire qu'il n'y a pas de problème, oui, il y a quelques problèmes d'égo ou d'appréciation divergente, c'est un certain nombre de choses, mais dans tous les cas, il faut que les textes que nous nous sommes librement donnés donc, soient respectés. Sinon, pourquoi nous avons demandé au RPT de respecter les textes, que c'est extrêmement important pour du moins c'est la bonne gouvernance, et que nous-mêmes, du moins au niveau du CVU, donneur de leçons, nous-mêmes n'avons pas respecté nos textes. Voilà ce que je peux dire là-dessus, mais je crois que tout cela n'entame pas notre engagement, notre détermination à accompagner le peuple togolais dans sa lutte pour conquérir du moins sa liberté.
Monsieur Agboumé Kodjo, merci. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique avec le soutien du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Eh bien, c'était Agboumé Kodjo, président de OBU, organisation pour bâtir un Togo et solidaire. Et également, il est membre influent du CVU Togo, et donc CVU et Togo, et pas diaspora, parce qu'il existe deux CVU, mais je pense que c'est toujours un seul collectif. Tout à l'heure, nous allons avoir des explications également avec M. François Fabrega, qui est aussi membre influent du CVU. J'espère qu'il est déjà en ligne depuis la France. Et nous allons tenter de le recevoir. Bonsoir, M. François Fabrega.
Bonsoir, Sylvain.
Merci d'être en direct avec nous depuis la France dans Fenêtre sur l'Afrique. Et vous êtes membre influent de CVU Togo, CVU Diaspora, si on pouvait le dire comme ça. Dans votre sortie médiatique, vous n'appréciez pas la démarche du Front Sage de Maître Jean Dégli. Mais chose curieuse, M. Agboumé Kodjo, également membre du CVU, se joint au Front Sage et a même participé à sa marche de protestation samedi dernier. Assistons-nous à l'éclatement du collectif pour la vérité des urnes, Monsieur François Fabrega.
Bien, merci Sylvain pour me recevoir et ça va me permettre de me livrer à une clarification. Il n'y a pas de crise au sein du CVU. Il y a la marque simplement de l'indépendance, de l'application des règles de la démocratie et le droit de ceux qui payent pour être libres de respecter les valeurs sans créer de confusion au sein de la population ni auprès des responsables politiques. Le CVU Togo Diaspora est indépendant et l'a toujours été. Son financement est autonome ainsi que son site internet qui est protégé contre les nombreuses attaques que nous recevons quotidiennement d'ailleurs. Les fonds de CVU Togo Diaspora sont indépendants, ce qui garantit sa liberté de parole. Mais cette mise au point est en fait, à mon avis, le problème vient du fait qu'il y a confusion et mélange des genres dans la pratique politique et le positionnement au sein de la société. Actuellement, le coordinateur national de CVU Togo est en même temps président d'un parti politique. Il est difficile de porter une double casquette, à la fois celle d'un mouvement citoyen dont l'objectif n'est pas la prise du pouvoir politique, ce qui est le cas de CVU Togo Diaspora ou de CVU Togo, mais la conscientisation politique de masse, et en même temps de porter la casquette de président d'un parti politique dont l'objectif est de gouverner le pays et de prendre le pouvoir. Donc là, cette double casquette est difficile à porter. Si en plus on prend en compte cette donnée, on comprend mieux la situation. D'ailleurs, il faut aussi s'interroger sur la volonté de certains de contrôler, voire de faire taire CVU Togo Diaspora, qui n'est là finalement que pour éclairer par ses analyses le peuple togolais et l'alerter sur tout ce qui représente un danger pour l'évolution du processus démocratique. D'ailleurs, les lecteurs expriment leur soutien à cette démarche et nous félicitent souvent pour la pertinence de nos travaux et sont confiants sur la poursuite de l'action de CVU Togo et de CVU Togo Diaspora. Et j'estime, comme l'a dit Agboumé Kodjo, qu'avoir des points de vue différents en démocratie n'est pas un drame, c'est au contraire une richesse qui peut enrichir l'action politique. Mais à une condition impérative, c'est que chacun présente clairement ses véritables motivations quant à l'objectif final à atteindre. En matière de clarté, on ne peut rien reprocher à CVU Togo Diaspora. Selon CVU Togo Diaspora, la seule véritable solution de sortie de crise au Togo passe par une transition qui implique au moins tous les acteurs politiques qui ont concouru à l'élection présidentielle de 2010. Cette transition, nous l'avons définie dans les 22 propositions de sortie de crise publiées par le CVU le 22 mai 2010 pour servir de base de travail. Tout ce qu'écrit et publie CVU Togo Diaspora est toujours sous-tendu par ce fil conducteur. C'est pourquoi nous avons dit récemment que le dialogue inclusif de Fornia Singbe était un piège pour l'opposition togolaise, et la meilleure preuve apportée à notre analyse, ce fut le projet de loi visant à restreindre les libertés politiques, présenté par le ministre Bojona à peine 2 mois et demi après la proposition de débat inclusif de Fornia Singbe. Voilà, je crois maintenant que pour les auditeurs, les choses sont claires. CVU Togo Diaspora continue sur cette même ligne et n'a jamais dévié. Vous pouvez prendre tous ces textes et toutes les publications qui ont été faites jusqu'ici, nous n'avons déjà jamais dévié de cet objectif et nous ne sommes pas prêts. Et le CVU Togo Diaspora informe ses lecteurs et ses auditeurs que jamais il ne passera le moindre compromis avec Fornia Singbe ou ses affidés. Voilà. Oui. La situation est claire. Hein.
Et merci pour ces explications et pour ces développements. François Fabrega, il est incontestable que l'opposition togolaise se divise encore plus davantage avec une marche concomitante du FRAC et du Front Sage, un même jour, le week-end passé. Quelle analyse faites-vous au CVU et Diaspora?
Oui, alors, la question des manifestations du week-end dernier, je rappelle quand même que l'objet de ce litige, c'était la fameuse loi qualifiée de liberticide présentée par Bojona. Hein? Mais de ce point de vue, la question semble avoir été tranchée. La première version Bojona, Il y a eu deux versions. Il y a eu la première version du texte de Bojona et puis la nouvelle qui est complètement édulcorée. Mais d'ailleurs, il a été vidé de sa substance et même dans cette version, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il ne reçoit pas l'assentiment des partis politiques qu'ils disent tous qu'ils doivent être retirés. Ce texte doit être donc retiré, à mon avis, à la demande des partis de l'alternance, et les marches du FRAC ont eu, de ce point de vue, un effet concret puisque le pouvoir politique a partiellement reculé. Mais je précise que le gouvernement a choisi de le modifier à 60% environ, en enlevant les partis faisant polémique, sans toutefois enlever les fondements antidémocratiques du texte. Et c'est bien ce qui pose problème. Et nous voyons bien que l'apport des juristes pour sa réécriture n'a en rien modifié l'intention politique, je dirais, restrictive du gouvernement RPTAGO, qui demeure dans la nouvelle version. Par ailleurs, il est de notoriété publique que le système judiciaire togolais fonctionne à sens unique, sans véritable séparation des pouvoirs. Chacun le sait au Togo. On peut donc se demander quel serait le résultat d'une plainte contre le non-respect de la nouvelle version de ce texte, puisque les lois togolaises, chacun le sait au Togo, ne sont faites que pour ceux qui s'octroient le droit de ne pas les appliquer, et cela, on les retrouve surtout au pouvoir aujourd'hui. Alors cet épisode politique démontre le caractère hermétique de ce pouvoir à toute avancée démocratique. Il montre aussi la limite du débat politique inclusif à la manière Fornia Singbe pour ce qui concerne les réformes institutionnelles dont le Togo a besoin, à mon avis, de manière très urgente. Car cette loi relève bien d'une réforme du dispositif institutionnel en matière de respect des libertés publiques, notamment celles d'expression et de manifestation. Au lieu d'essayer chaque fois de passer en force, ne serait-il pas plus judicieux de travailler en concertation avec les partis politiques? Et là, on pourrait parler de véritables débats inclusifs. Donc la manière dont le pouvoir de Fornia Singbe a tenté d'imposer cette loi est bien la démonstration qu'il n'y a aucune aptitude ou capacité ou volonté de dialogue de sa part. Donc, sur ce sujet précis, la différence de point de vue entre le FRAC et le Front Sage semble avoir été tranchée par les Togolais les plus déterminés qui résistent depuis plus d'un an maintenant et qui marchent tous les samedis dans les rues de Lomé. Samedi dernier, alors qu'il y avait 200 personnes présentes selon les observateurs à la manifestation du Front Sage, Fabi Kouassi vient de nous dire qu'il y en avait plus de 50 000 à celle du FRAC qui marche tous les samedis depuis un an. Donc la population togolaise a tranché ce débat. Si l'on ajoute à l'analyse des faits que deux partis politiques d'opposition, dont un d'ailleurs qui représentait l'Assemblée nationale, avaient soutenu publiquement la manifestation du Front Sage, la démonstration semble avoir été faite des réelles capacités de mobilisation de ces partis politiques s'il n'y avait que 200 personnes à la manifestation du Front Sage.
Oui, François.
Donc, le débat, maintenant, un dernier mot sur cette question. Vous m'avez parlé de l'appartenance, d'Agbeyové parle, Kodjo tout à l'heure parlait de l'appartenance de Degli, de Jean Degli au CVU, et en même temps au Fronçage. Mais que je sache, le Fronçage, jusqu'à plus ample informé de ma part, n'est comme le CVU Togo Diaspora, par exemple, ou le CVU Togo tout court, qu'un mouvement citoyen. Alors, dans la mesure où Jean Degli était membre du CVU Togo, qui était lui-même un mouvement citoyen, pourquoi n'a-t-il pas pris l'initiative qu'il a prise sous l'égide du CVU Togo et a éprouvé le besoin d'aller créer une nouvelle entité qui s'appelle le Fronçage? Il y a quand même, vous l'admettrez, une sérieuse contradiction de sa part.
Oui, monsieur François Fabregat, si nous voulons revenir encore au Fronçage, dans une interview accordée à un confrère de FM Liberté, et maître Jean Degli affirme ne pas comprendre, vous et monsieur, ou encore docteur Yves Kouyama-Iso, quand vous vous posez la question de savoir d'où proviennent les fonds pour l'organisation de la marche du Fronçage. Que répondez-vous, François Fabregat?
Tout à fait, mais si nous avons interrogé, nous n'avons rien affirmé. Si vous prenez le dernier communiqué que nous avons publié sur ce sujet précis, et d'ailleurs ce communiqué allait bien au-delà de la question du Fronçage, puisqu'il parlait de l'opposition togolaise en général, nous, effectivement, nous avons parlé de cette question, et nous avons posé une question, mais personne n'y a répondu jusqu'à maintenant. Qui effectivement a financé cette initiative? Est-ce un drame en démocratie que de poser une question pour faire la clarté devant le peuple togolais? C'est tout simplement une demande d'éclaircissement. Nous nous posons la question, nous attendons que les autres y répondent. Voilà, tout simplement. Que le Fronçage réponde à la question que le CVU a posée, voilà.
Et quelle était la question, monsieur François Fabregat?
La question que vous venez de poser par rapport au financement, qui a financé l'opération du Fronçage, tout simplement. Voilà, nous nous posons la question, nous avons posé la question dans le dernier communiqué, parce que j'ai sous les yeux l'interview de monsieur Jean Degli, Jean Yaouvi Degli sur FM Liberté. Je l'ai, hein. Je ne comprends donc pas les propos d'Yves Maïseux de Fabregat qui pose la question insidieuse et venimeuse de qui finance le Fronçage. La question n'est ni insidieuse ni venimeuse, elle tend tout simplement à faire la clarté devant le peuple togolais. Si vraiment la réponse à cette question est si délicate pour Jean Degli, alors le peuple togolais peut se poser des questions légitimes, voilà. Est-ce que j'ai répondu clairement à votre question, Sylvain?
Oui, et monsieur François Fabregat, une question pertinente. Et vous soutenez, si on peut le dire comme ça, vous soutenez depuis 8 années le FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement, ce front qui est toujours dans les rues de Lomé depuis 8 années, plus d'1 année. Mais jusque-là, il n'y a pas un résultat concret. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la diaspora peut faire pour sortir le Togo de cette crise, monsieur François Fabregat?
Pour sortir de cette crise, je crois que il faut se méfier d'une chose. C'est de la désinformation qui règne aujourd'hui sur l'ensemble des grands médias. Et je tiens ici à saluer tous les efforts que vous faites de manière hebdomadaire tous les samedis pour éclairer justement nos amis au pays là-bas et dans l'Afrique de l'Ouest en général sur la réalité de ce qui se passe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que peut faire la diaspora, tout simplement la diaspora peut continuer à soutenir et en disant et en affirmant, comme nous le faisons et comme le fait CVU Togo Diaspora, de manière très claire que ce que font les dizaines de milliers de Togolais que j'appelle moi les plus éclairés aujourd'hui, en manifestant depuis plus d'un an maintenant dans les rues de Lomé, d'une part pour contester la victoire de Faure, et d'autre part pour signifier chaque fois que besoin s'en fait sentir toutes les malversations au niveau de la gouvernance, je crois que c'est la bonne voie. Pourquoi c'est la bonne voie? Tout simplement parce que la question du changement n'est pas liée à celle du temps. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui si ce sera aujourd'hui, demain, dans 8 jours, ou dans 15 jours, ou dans 6 mois. Mais ce que je peux dire, c'est que le fait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de Togolais qui, depuis le 4 mars 2010, font valoir que la victoire de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle du 4 mars 2010 est complètement usurpé, ça, ça sème les gènes. Ça sème les gènes au niveau de la population et du peuple togolais au sens le plus large pour que, justement, demain, ils puissent se soulever de manière encore plus grande sur l'ensemble du pays. Je rappelle également, au niveau de la désinformation, qu'on a oublié de dire, les grands médias ont oublié de dire, que les manifestations n'ont pas eu lieu seulement à Lomé. À une certaine époque après l'élection, toutes les villes de l'intérieur du pays, que ce soit Dapaong, que ce soit Kara, que ce soit Palimé, que ce soit Atakpamé, que ce soit Sokodé, toutes les villes ont bougé et il y a eu des manifestants qui ont été d'ailleurs au passage violemment réprimés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que au sein du peuple togolais en général, et pas seulement à Lomé mais sur l'ensemble du territoire, il y a les germes d'une contestation plus grande. Ce que je suggère aux dirigeants du FRAC qui organisent les marches tous les samedis à Lomé, c'est d'y inclure dans leurs revendications, de dépasser la question de la revendication de la victoire de Jean-Pierre Fabre, qui, elle, est légitime, mais de la dépasser en y incluant très fortement les aspects sociaux. Que nos amis dirigeants du FRAC qui organisent ces marches prennent en compte ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie, ou qui se passe encore aujourd'hui en Algérie, au Maroc, au Yémen et ailleurs, ou en Syrie, qu'ils prennent bien exemple là-dessus, parce qu'il y a au sein des revendications de ces peuples une dimension éminemment sociale. Et cette dimension sociale, le jour où le FRAC va l'inclure de manière très forte dans le cadre de ses revendications les samedis, je pense que les choses peuvent bouger et peuvent aller à ce moment-là beaucoup plus vite.
Monsieur François Fabregas, le temps est contre nous malheureusement. Nous allons quitter un petit peu le cadre politique togolais. Et vous êtes aussi panafricain et panafricaniste au sein du CVU Togo et Diaspora. Quelle lecture faites-vous alors sur la crise ivoirienne et sur la crise libyenne? François Fabregas.
Alors, écoutez, sur la crise ivoirienne, je ne vais pas dire plus que ce qu'a dit votre invité tout à l'heure, le représentant de Laurent Gbagbo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au sujet de la Côte d'Ivoire, je constate déjà que la communauté internationale ne marche pas au même pas. Ça, c'est un premier point. Si vous avez suivi l'actualité, la Gambie vient d'ouvrir une brèche en déclarant officiellement que le gouvernement d'Alassane Ouattara ne serait pas reconnu par le pays, officiellement. Ça, c'est déjà une brèche au sein de la communauté internationale, même si c'est un petit pays comme la Gambie qui l'a ouverte. Et donc, c'est bien la preuve, ça, qu'aux yeux de certains, la vérité des urnes n'a pas l'avantage émergé en Côte d'Ivoire qu'elle a émergé au Togo le 4 mars 2010, au Burkina Faso en novembre 2010, en Centrafrique en janvier 2011, au Bénin en mars 2011 et hier encore au Nigeria. Dans tous ces pays, la contestation post-électorale des résultats électoraux est manifeste. Mieux encore, en Centrafrique, le rapport de la mission d'observation électorale à laquelle participait l'Union européenne a déclaré que les résultats étaient sujets à caution. Alors la question que je vais poser, la France va-t-elle envoyer maintenant la force licorne dans tous ces pays pour rétablir les présumés vainqueurs des élections dans leurs droits ? Il n'a pas échappé non plus aux Africains que Ouattara est l'homme qui a introduit et soutenu la violence politique à travers la rébellion armée en Côte d'Ivoire depuis 2002, et qu'il a refusé le recomptage des voix comme le proposait son adversaire, alors qu'il ne cessait de clamer qu'il était sûr de sa victoire lui aussi. Alors au-delà de ce constat, ma position est qu'il faut la palabre africaine intelligente. Je rappelle à cet effet, et ça c'est très important, que M. Amaïso a publié sur ce sujet deux textes importants qui pourraient même devenir des textes fondateurs. L'un qui traite spécifiquement de cette question et qui dit « La palabre africaine intelligente, un instrument de sortie de crise ». Et l'autre texte qui est relatif au danger des interventions militaires pour régler les conflits post-électoraux qui s'appelle « Communauté internationale et droits d'ingérence, approche manichéenne et vérité des urnes violées ». Dans ces textes, M. Amaïso insiste particulièrement sur l'impasse que constituent à terme les interventions militaires, surtout lorsque les Africains sont amenés à intervenir contre d'autres Africains. Et ça c'est important aussi, parce qu'au sein de l'ONUCI, c'est bien des Africains qui interviennent contre d'autres Africains. Je pense donc personnellement que c'est bien aux Africains qu'il appartient de se dégager de leur leur immobilisme et de régler leurs problèmes entre eux. Le Togo, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, montre l'exemple. Ceux qui sont dans le vrai sont ceux qui, depuis un an maintenant, sortent tous les samedis par milliers pour contester la victoire de Nassim Bey de ses actes de gouvernance liberticides. C'est ce que je disais il y a un moment. Les citoyens les plus éclairés du Togo qui mènent cette résistance ne se calfeutrent pas derrière la peur et la répression et font face aux incongruités de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Parce qu'on a tendance à dire que où sont les peuples, ils bougent. On ne peut pas reprocher au peuple du Togo, et en tout cas sa partie la plus éclairée, de bouger depuis plus d'un an. Tôt ou tard, même si je ne peux pas dire quand, comme je vous le disais tout à l'heure, samedi après samedi, ils sont en train d'inculquer au peuple togolais dans un sang large les gènes de la révolte. Et c'est ça qui est important. Et l'idée que seul le combat politique, sans concession, je dis bien sans concession, et surtout sans compromission, ça c'est important, sans compromission politique, permettra de parvenir à instaurer l'alternance politique. Donc, je pense, pour terminer...
Oui, 30 secondes.
C'est d'ailleurs pour cela que le pouvoir formule de nombreuses tentatives pour essayer d'enrayer ce mouvement de contestation avec des initiatives politiques parallèles, plus ou moins heureuses, et je rajouterai plus ou moins douteuses. Le Togo est aussi près de nous, le Burkina Faso, qui bouge beaucoup aujourd'hui, ça ne vous a pas, certainement pas échappé, M. Amos, pourrait être donc, je pense, des précurseurs en Afrique de l'Ouest dans la période à venir. Voilà ce que je
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Fabrega. Je rappelle que vous êtes membre influent du collectif pour la vérité des unes, CVU Togo, CVU Togo Diaspora. Encore une fois, merci François Fabrega d'être en direct avec nous dans cette émission. Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir chez vous et bonne fête de Pâques.
Merci, bonne fête également.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Fenêtre sur l'Afrique et stop et fin. Sylvain Amos au micro. Romé Koudodia à la collaboration. Également Fabi Kouassi depuis Lomé. Josué Maoli et Esteban Gagnon. Merci à vous toutes et à vous tous qui étiez restés en notre compagnie pendant les 60 bonnes minutes qui vont bientôt finir. Nous vous souhaitons une très bonne fête de Pâques. À toutes et à tous, encore une fois, et bonne soirée. Excellente soirée à toutes et à tous. Et excellente continuation de programme sur Radio Canal K. We'll be right back.